La Rosée. C'était son nom de guerre. Oh, peu se souvenait de l'autre. Et quand au soir de sa mort, le curé appela les fidèles à prier pour l'âme de Pierre Ardoin, ben mon Dieu, ceux-ci s'interrogèrent du regard pour mettre un visage sur ce nom. Il était né dans l'aménage du château, comme son père d'ailleurs, oh, et sans doute aussi son grand-père. Toute sa vie s'était écoulée dans le cadre de la forêt qu'il avait fait sienne, sauf, pourtant, durant sa période militaire de 1870, pour faire du service dans les cuirassiers. La défaite l'avait ramené au pays, qu'il ne quitta plus que pour accompagner sa meute quand celle-ci découplait dans quelques chasses de Basse-Bretagne ou d'Anjou. Car la Rosée était piqueur, et aussi un excellent sonneur de trompe. Lorsque son père mourut, d'un stupide accident de cheval d'ailleurs, il n'avait que 10 ans. Mais déjà, il s'était fait l'ami des 42 splendides tricolores qui garnissaient le schnick du comte. Oh, il les connaissait tous, il parlait à chacun d'eux. Pour jouer, les chiens posaient leurs grosses pattes avant sur son épaule et s'il roulait dans la poussière, ses rires se mêlaient aux belles voix de la meute. Tous les maîtres d'équipage et les valets aimaient l'enfant et voyaient en lui déjà le digne successeur de son père. Et c'est pour sa mine fraîche et rose qu'il l'avait appelé la Rosée. Le nom lui était resté. Comme il était trop jeune pour l'emploi, le comte désigna un domestique de l'amenage pour s'occuper des chiens. Mais celui-ci n'avait qu'un rôle de surveillant entre les chasses. L'enfant s'acquittait parfaitement de sa tâche. À 13 ans, eh bien, on lui donna une trompe et une tenue d'équipage. Culotte marine, redingote garant, sacole et apparement de velours jaune et, bien sûr, une toque. Ah, s'il conduisait sa meute à pied, oh, il savait monter le demi-cent de l'écurie, en parfait écuyer qu'il était. Ainsi commença sa longue carrière au service du comte, faisant chaque matin de longues randonnées dans cette forêt où tous les arbres lui étaient connus. De la Belle Bouillée à l'Étoile de l'Aurore, du chêne Henri IV au carrefour Saint-Joseph. En avait-il surpris de ces jeunes chevreuils gambadant dans la fraîcheur du matin, et même de ces cerfs majestueux bramant dans les couchants dorés. Au retour de sa courte disée militaire, il épousa l'une des filles de basse-cour, belle et fraîche comme les fleurs sauvages. Un jeune couple qui s'installa dans une petite maison proche du chenil et qui accueillait le soleil par de très belles fenêtres arrondies à l'encadrure de briques rouges. Ils n'eurent pas d'enfants. Ce fut le seul chagrin de leur vie toute simple où l'amour partagé suffisait à leur bonheur. Et les jours passèrent, chacun vaquant ses occupations. Ils se retrouvaient ensuite pour les repas dans la grande cuisine du château, toute lumineuse de ses cuivres étincelants et de ses flammes dansantes dans l'immense cheminée. C'était là toute la grande famille du personnel, cuisinières et femmes de chambre. Femme de basse-cour, lingère, femme de service, cocher, valet de chambre, jardinier, cantonnier de forêt, des artisans aussi, appelés au château pour quelques travaux. Les repas étaient copieux et très gais. Rien ne devait troubler cette vie sans nuage jusqu'au jour où ils avaient atteint la soixantaine. Et voilà qu'un soir d'automne, rentrant d'une tournée dans le grand bois, l'homme trouva sa femme fiévreuse et grelottante. Le vieux médecin vint aussitôt et hocha la tête devant cette fièvre maligne qui déroulait sa science. N'osant l'affronter avec sa médecine compliquée de ses livres, il abandonna la patiente aux antiques pratiques paysannes conseillées par les femmes de ménage. La malade s'en trouva mieux, mais au premier froid, elle mourut. Comme ça, sans une plainte. Ses yeux embués fixés sur le visage bouleversé de son vieux compagnon. Ah, pour lui, ce fut comme un vertige. On l'entoura avec chaleur, maîtres et domestiques. Puis, sa passion des chiens et de sa forêt lui redonna le goût de vie. Il frémit à nouveau en écoutant la fanfare de la meute. Il sonna la lalie. Il devint au château embrasé ses soirs d'automne comme il était autrefois. 10 ans passèrent encore. Dans l'étourdissement des choses bruyantes et des randonnées sous bois, mais aussi dans la mélancolie des veillées de solitude quand il retrouvait sa maison déserte. Puis un soir, à son tour, il s'alita. Le lendemain, il y avait cours au château. Le jour s'était levé sur un paysage poudré de gel. Il fera beau en forêt. La rosée voulut se lever, s'efforce de trahir. Rongé par cette faiblesse soudaine, il dut confier sa meute à un suivant d'équipage. Il entendit la sonnerie des cors, les aboiements sonores des chiens impatients, autant de bruits familiers qui allaient s'estomper peu à peu dans les lointains. Il sombra dans une sorte de torpeur qui lui apporta un oubli bienfaisant. Là-bas, le débuché venait de retentir. On découplait. L'animal, un solitaire, fonça pour couper devant les chiens. Alors on s'en alla vue. On s'attendait à une bonne empoignade de la meute. Las. Flambeau, le fier flambeau, qui généralement bondissait sur la passe. Flambeau ne bougea pas. Et la meute autour de lui semblait figée, comme retenue sur place dans ce carrefour que réchauffait le soleil. Alors que les tenues rouges bordées de galons d'or piquaient les brumes qui traînaient encore sur la clairière. Les piqueurs voulurent relancer les chiens, rien n'y fit. Ils tournaient en rond, la tête basse. Toute la chasse était là maintenant, les hommes étonnés du comportement insolite des bêtes. Et voilà que tout à coup Flambeau eut un aboiement comme un sanglot qui se répéta dans l'écho des fourrés. Et suivi de la meute, reprit l'allée vers le château. Un valet voulut intervenir, le maître lui fit signe de laisser faire. Alors, dans ce clair matin d'hiver, Flambeau mena la marche. Toute la meute derrière lui, puis les valets à pied, les cavaliers, et tout cela dans un grand silence. Les mousses et les feuilles mortes étouffaient le bruit des pas. Une vapeur légère montait des fougères humides, et on aurait dit que les grands arbres se courbaient au-dessus de ce cortège de fantômes. Les chiens passèrent devant le chenil sans s'arrêter, se serrant les uns contre les autres, avec des gémissements. Rendus dans la cour, ils se regroupèrent face à la maison du vieux piqueur. Les équipages se rangèrent autour de la meute. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette scène, une sorte de fantasmagorie. À ce moment, le chapelain du château s'encadra dans la porte et dit ces simples mots « C'est la fin ». Le comte entra. Les femmes venues là pour les prières d'adieu s'écartèrent avec respect. Il s'approcha du lit, prit la main de son fidèle serviteur. Leurs yeux se rencontrèrent, puis ceux de la rosaire se refermèrent. Se refermèrent pour toujours. Dehors, tout n'était que lumière au-dessus du groupe silencieux. Quand le comte sortit, tous avaient déjà compris et se découvrirent. Certains se signèrent. Tous pleuraient. Le comte alors emboucha sa trompe et lança aux échos la fanfare qui était celle de son équipage et que l'on ne sonnait que le jour des grands événements de la famille. Ainsi mourut la rosée. Alors vous savez qu'autrefois, du temps du Moyen-Âge, les paysans, il n'y a rien de changé, se plaignaient toujours à leur maître que l'année avait été mauvaise, ça avait été trop sec, ça avait été trop mouillé, et ils ne pouvaient pas arriver à payer leur ferme. Alors il fallait que les maîtres jouent toutes sortes de ruses pour pouvoir sortir leur métayage. Et parmi eux, il en est un qui était Sieur Bonfils, propriétaire du parc Soubise, des domaines du parc de Vendrennes, Mervent, etc. Et c'était un ancien Rochelais qui avait acquis ça de la famille de la Massey et qui lui avait trouvé une combine vraiment originale. Tous les jours de Mardi Gras, tous les ans, le jour du Mardi Gras, il organisait un grand banquet au château du parc. On tuait le cochon, on vidait le poulailler, on tuait le veau gras. Et il invitait tous les métayers à venir faire la bombe au château. Et on dansait dans l'après-midi, et en fin de journée, les dames du château offraient leur tenue qu'elles ne portaient plus à ces dames, aux fermières. Et les fermières étaient très attachées à cette coutume. Mais, pour assister à ce banquet, il fallait tout de même avoir payé son fermage. Il fallait d'abord passer devant le régisseur. Et les femmes poussaient à la roue, et ma foi, comme ça, tous les ans, le sieur Bonfils touchait ses métayages sans autres histoires.